Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Déclic, nom masculin, moment qui détermine la compréhension d'une situation, une prise de conscience ou les deux.
Salut, c'est Sophie et Juliette de 18h17 Productions et vous écoutez Le Déclic. Aujourd'hui, nous recevons Marie Cazaïs. Marie Cazaïs est une artiste illustratrice spécialisée dans les œuvres érotiques. Dans cet épisode, Marie nous raconte son parcours de petite fille passionnée de dessin mais pas très sûre d'elle à artiste accomplie. Elle nous dévoile à travers les années son évolution artistique et personnelle, mais aussi et comment elle a trouvé sa voie, son style et sa façon de s'épanouir.
Et cette semaine, dans Le Déclic, on reçoit Marie Cazaïs. Bonjour Marie.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Très bien.
Okay. Eh bien, écoute, avec Sophie, on est ravis de t'avoir dans Le Déclic. Je spoil pour nos auditeurs, Marie, toi et moi, on se connaît depuis la maternelle.
Tout à fait.
Et je t'ai invitée dans ce Déclic parce que tu es devenue une artiste reconnue. Tu as toujours, je spoil toujours un petit peu de ce dont on va parler, mais tu as toujours été une amoureuse du dessin. Moi, je t'ai toujours connue sur les bancs de l'école en train de croquer, de dessiner les chats, nos chats, de dessiner surtout des animaux, etc. quand on était en maternelle, en primaire, etc. Et maintenant, t'en as fait ta voix et ta vie. Du coup, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si t'as écouté un petit peu, mais dans nos podcasts, on a l'habitude de revenir un petit peu sur l'avant-déclic de nos invités. Mm-hmm. Donc, est-ce que tu peux te présenter, Marie, et de nous dire qui tu es?
Donc, je m'appelle Marie Cazaïs. Donc, je viens de Rouen, comme toi, Juliette. Et aujourd'hui, je suis illustratrice à mon compte.
Ouais.
Et je vis de cette passion que j'ai depuis toujours. Et donc, je suis à Paris.
D'accord. Voilà. Et tu as la chance, effectivement, de vivre de ta passion que tu as depuis toute petite.
Quelques années, mais maintenant, ouais.
Est-ce que tu peux nous décrire ton métier, ce que tu fais au quotidien exactement, quelle est la vie d'une illustratrice, d'une artiste parisienne?
Après, je ne saurais pas trop si c'est le même rythme que les autres artistes, mais en fait, je vais avoir plusieurs sources de projets.
D'accord.
Soit ça va être mes propres projets et je vais avoir une idée, je vais me débrouiller pour la mettre en forme et je vais la publier sur les réseaux et ensuite éventuellement faire des tirages à vendre. Donc déjà, il y a ces projets-là. Après, dans ces projets, je peux faire des collaborations aussi avec d'autres artistes, aussi bien photographes, modèles, auteurs, autrices et d'autres artistes aussi, c'est possible. Et ensuite, donc du coup, je peux vendre soit mes dessins originaux, soit des tirages. Après, des fois, je fais des marchés de créateurs où je vends aussi plus facilement donc mes produits. Sinon, je vends en ligne. Et sinon, après, j'ai aussi des commandes de dessins personnalisés.
D'accord.
Donc là, il y a des particuliers qui viennent me voir, enfin, qui m'écrivent plutôt un mail.
Instagram.
Oui, ou sur Instagram, c'est possible aussi. Et qui me demandent si je peux faire une illustration à partir d'une de leurs photos privées.
D'accord.
Et en fonction du projet, je dis oui, c'est possible ou pas. Et après, sinon, il y a des entreprises qui me proposent la même chose, mais plus de manière institutionnelle. On va demander de dessiner un portrait pour une interview
D'accord.
ou pour une chronique ou un truc comme ça, ou un séminaire.
D'accord.
Et donc, après,
ou
avec
une pub, ce genre de choses.
Moins pub. Ça va vraiment être plus des petits portraits comme ça, à
D'accord.
droite à gauche.
De collaborateurs, etc., pour des entreprises.
Ouais, pour des entreprises. Donc, en fait, ça va plus être vraiment ma personnalité, mais ça va être mon coup de crayon.
D'accord.
Et par contre, ça arrive aussi qu'il y ait des magazines qui viennent me voir, ou des entreprises, pour faire une illustration à partir d'un article qui sera dans le thème de l'érotisme. Ou du corps.
Oui, parce qu'en fait, Marie, on ne l'a pas expliqué, mais toi, tu es plutôt spécialisée dans les illustrations, les dessins qui mettent en avant plutôt l'érotisme ou le corps, en fait.
Ouais, tout à fait.
On va en parler juste après de comment tu as fait prendre ce virage à ta carrière. On va parler justement aussi de comment tu en as fait pour en arriver là. Quel est ton parcours? Quelles études tu as faites?
Donc, de base, j'ai dessiné tout le temps quand j'étais petite, mais des petits dessins comme ça, sur des cahiers et tout. J'ai aussi pris des cours de peinture, ou on va dire d'art plastique, avec des maîtres peintres et tout ça, pendant toute mon enfance. Et ensuite, je suis arrivée en art appliqué au lycée. Donc, j'ai fait un bac art appliqué, je suis arrivée en première. Donc, j'ai eu le bac et après, je me suis spécialisée en design graphique pour entrer dans un BTS. Toujours à Rouen. Ouais. Et en fait, ce qui m'intéressait vraiment, c'était connaître toutes les ficelles sur tout ce qui touchait au visuel.
Ouais.
Et même si j'étais pas ultra fan de faire des logos, et ben, je me suis dit, ça pourra toujours me servir de savoir faire ça, de comprendre quelle couleur évoque quel domaine.
Ouais.
De connaître les typos, de savoir mettre en page des affiches, parce que en fait, j'étais toujours admirative des affiches.
Ouais.
Mais en soi, ce qui m'intéressait, c'était juste le dessin.
D'accord.
Qu'il y avait dessus, ouais. Ouais, voilà. Et donc, en fait, je me suis dit que même si en soi, le graphisme, c'est pas quelque chose d'inné chez moi, et ben, ça pourra toujours me servir pour faire des affiches illustrées et au moins savoir placer des titres et tout. Ouais. Et donc, après ça, je suis restée encore en études et j'ai fait un DSA, c'est un diplôme supérieur d'art appliqué. Et là, je l'ai fait dans la Creuse, dans une petite ville qui s'appelle La Souterraine.
C'est vrai que je me rappelle de cette époque-là où tu étais dans la Creuse. C'est fou. Et parle-nous-en justement un peu comment ça se fait qu'il y a une... parce que les DSA, c'est un... Moi, je m'y connais un petit peu parce que j'ai fait des études d'art aussi. Mmh. Je fais des études de stylisme. Et le DSA, c'est un peu le plus gros diplôme que tu puisses avoir en fait en art appliqué. Comment ça se fait que ce soit qu'il y ait une formation aussi prestigieuse genre dans la Creuse, sans vouloir dénigrer la Creuse.
Oui.
Mais disons que toutes les grandes écoles sont souvent dans les grandes villes. Pas forcément Paris, mais dans les grandes villes en tout cas.
Ouais, en fait, je pense que c'était aussi une volonté de certains profs qui vivent là-bas.
Mmh.
Et qui ont monté aussi le diplôme supérieur, parce qu'en fait, quand j'ai fait ce master, c'était la première promo. Enfin, je faisais partie de la première promo. Avant, il n'y avait qu'un pôle art appliqué, mais avec que des BTS, mise à niveau. Et nous, on était les premiers masters. Et en fait, c'est vraiment ces profs-là qui avaient pour volonté d'orienter toute cette formation autour... De l'éco-conception, du design responsable.
Ah oui, c'est ça.
Et le fait d'être dans une zone rurale aussi, ça permettait d'être beaucoup plus impliqué dans des questions d'environnement, des questions sociales, et de peut-être aussi prendre un peu de recul sur peut-être le flot un peu incessant de la ville et prendre plus de recul par rapport à ça, quoi.
Ah, c'est une belle approche, je trouve.
Oui.
T'as toujours rêvé d'être artiste depuis que t'es petite, ça a toujours été ton...
Ouais, carrément, oui. En fait, après...
Enfin, moi, je sais, hein, mais...
Oui, toi, tu sais. mais je savais pas quelle forme ça allait prendre. Je me souviens, en maternelle, j'avais rencontré certains peintres.
Ouais.
Enfin, rencontré ou pas, c'est juste que j'avais compris que le métier de peintre... Et pouvait exister, mais je savais pas si c'était possible pour moi et tout. Et donc, du coup, ça me déprimait un peu. Et parce que j'avais beaucoup de mal à l'école, en tout cas en arrivant en primaire. Et parce que justement, la maternelle, c'était chouette, on pouvait s'amuser et tout.
Oui, puis la maternelle, c'est beaucoup d'apprentissage via le jeu et l'apprentissage via le toucher aussi. Voilà, tu apprends à compter avec des petits cubes, avec des machins, des trucs comme ça. Et puis tu dessines beaucoup, tu crées beaucoup quand t'es en maternelle, en fait.
Ouais. T'es assez créatif, alors que quand t'entres en CP, là, c'est... Tu rentres dans le dur, tu vois.
Ouais, mais c'est vrai qu'en plus, on en parle... Surtout, nous, on en parle pas parce qu'on n'a pas encore d'enfants, mais c'est vrai que c'est, quand tu y réfléchis, a posteriori, c'est quand même un choc. Tu passes d'effectivement... Rien qu'en termes d'environnement, tu passes d'un environnement où tu te balades dans la salle de classe où tu es assis, allez, 10 minutes qu'un quart d'heure, comme ça, à être assis devant un cahier, sur un pupitre, et à suivre un cours, en fait.
Ouais, c'est ça. Et après, j'avais aussi un peu de mal avec la prof en question. Je pense que ça peut jouer aussi en fonction de qui t'es en face de toi et tout. Et du coup, mon rêve de devenir artiste s'éloignait de plus en plus. Je me dis, mais comment c'est possible et tout. Et en fait, après, j'en ai parlé à ma mère à cette époque. Et puis, elle m'a dit que si c'était possible et tout ça, mais que pour devenir artiste, il faut savoir compter, lire, pour pouvoir présenter son travail, le vendre.
C'est une belle façon d'expliquer un enfant, je trouve.
Oui, carrément. Donc, après, je me suis accrochée, j'ai continué à faire des cours et tout ça d'art. Mais il y a des moments où je voulais être genre styliste, donc je dessinais beaucoup de vêtements. Et après, bah, quand je me suis, quand on est arrivé vers la fin du collège, ouais, et qu'on pouvait commencer à choisir la section du lycée, est-ce que tu veux éventuellement faire une section générale ou te spécialiser? Je découvrais les arts appliqués, mais je savais pas trop ce que c'était. Le design, je connaissais pas.
C'est vrai qu'en plus, arts appliqués, ça peut tout et rien dire aussi. C'est un peu flou, surtout quand tu connais pas, effectivement.
Oui, tu dis, c'est quoi la différence entre arts appliqués et arts plastiques? Mais sauf que t'as tellement de termes.
C'est clair.
Et c'est très étrange, quoi. Et du coup, comme j'avais une scolarité assez, on va dire, basique, j'étais pas excellente et j'étais pas trop nulle, et ben je suis pas rentrée dans aucune des deux spécialités, mais j'avais quand même fait une option facultative art plastique quand je suis arrivée en seconde. Et après, ben, en découvrant un petit peu plus les arts appliqués en étant déjà dans le lycée, et bah là, j'ai commencé à me dire, j'ai l'impression que les arts appliqués peuvent m'apporter peut-être plus de connaissances dans l'univers de l'art et peut-être plus m'apprendre aussi sur est-ce qu'il y a un métier en particulier qui pourrait me plaire. Et alors que les arts plastiques, j'avais l'impression que si j'y entrais, je serais assez livrée à moi-même.
C'était déjà très spécialisé, quoi.
Ouais, et je me suis dit, ce sera plus facile de si jamais les arts appliqués ça me plaise pas de me réorienter vers les arts plastiques que l'inverse.
D'accord, oui, effectivement, ouais.
Et que dans les arts appliqués il y avait quand même une part d'art plastique, il y avait une part d'art,
mais en fait c'est comme un entonnoir, quoi. C'est que les arts appliqués c'est un entonnoir et après tu te silotes un petit peu si t'en as envie de plus te spécialiser en art plastique ou en design ou en stylisme.
Et du coup, comme je te disais, en fait, j'ai postulé pour entrer dans une première art appliquée, donc c'était possible d'entrer en milieu de parcours. Et donc j'ai été prise, et en fait en découvrant toutes les spécialités de design, je me rendais compte que le design en soi, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, c'était pas, enfin je sentais bien que c'était pas inné, mais que déjà juste la manière de réfléchir ça me convenait totalement plus que apprendre des cours par cœur en français, en histoire, tout ça. Et après c'est juste que petit à petit tout s'est spécialisé et je me suis dit même dans les arts appliqués, on peut juste être artiste. Et c'est juste que tu vas savoir utiliser les bons outils qu'on va t'apprendre et finalement te créer ton propre métier plus tard. Et donc, ça s'est venu par la suite. Mais c'est vrai que, en fait, je me suis laissée un petit peu guidée par le chemin des études et tout pour ensuite arriver là à être illustratrice. Parce que c'est vrai que tout au long de mes études, tout le monde disait, mais c'est bouché comme métier, être illustratrice ou dessinateur, dessinatrice, c'est compliqué pour trouver des clients, tout ça. Et certes, ça a été compliqué, mais je pense qu'en fait, il faut juste essayer de comprendre avec qui tu as envie de travailler, sur quoi tu as envie de travailler et dans quel univers. Et après, c'est clair que ça met plusieurs années pour créer ton réseau. Mais en fait, si tu sais quelle est ta cible, quels sont tes clients et ce que toi, tu as envie de faire et dans quel style aussi, au bout d'un moment, en fait, tu vas te faire reconnaître pour quelque chose. Mais ça prend vachement de temps.
Et là, on a parlé du fait que tu as toujours voulu être artiste, mais est-ce que tu as toujours su que tu serais artiste? Est-ce que tu avais toujours cette petite flamme, petite conviction qu'on a parfois de se dire... En fait, je le savais un peu et quoi qu'il arrive, il l'aurait fait, quoi.
Oui, je pense que oui, parce que tout était à chaque fois orienté pour faire de l'art, en fait. Donc, quand j'étais...
t'as jamais renoncé?
Ouais, non, jamais. À chaque fois, il y avait toujours une ouverture où je me suis dit...
Ou tu l'as créée toi-même, parce que tu disais, quand t'es petite, t'as posé la question, en fait, parce qu'il y a des enfants qui peuvent... pas poser la question et juste se décourager tout seul et plus jamais en parler, quoi.
Oui, surtout en fait que mes parents avaient déjà un peu un pied dans l'univers de l'art, ils étaient intéressés par ça, même s'ils savaient que c'était difficile, et ils étaient prêts à me soutenir moralement au moins pour commencer. après j'ai fait que des formations aussi publiques, j'ai fait des... Enfin, quand j'ai commencé le lycée, du coup j'étais dans ma ville natale, donc il n'y avait pas... aussi trop de questions d'argent au début, parce que c'était pas des écoles payantes, ou alors j'avais juste genre 100 balles de frais d'année, enfin voilà, quoi.
Le prix de la sécu classique,
ouais, c'est ça. En fait, même si par exemple en seconde j'avais pas été acceptée dans la formation art appliqué ni art plastique, je me suis dit c'est pas grave, je teste l'année prochaine. En attendant, je fais une option art plastique. Mais c'est juste que... C'est juste que je me disais, je me vois pas faire autre chose, en fait.
Ouais, et... qu'est-ce que je ferais d'autre, quoi.
Ouais, et je m'étais dit, bah après, j'avais une certaine logique que peuvent avoir les designers. Et du coup, je me suis dit, bah au pire, m'orienter vers du scientifique. Mais j'avais bien, il y avait quelques formations où je voyais bien que j'avais trop du mal parce qu'il fallait apprendre par cœur et je fonctionne pas comme ça. Et après, bah les lettres, comme c'est aussi lié à l'art, l'histoire de l'art, je me suis dit, au pire, je peux m'orienter là-dedans. Ouais. En fait, j'avais toujours un petit peu des plans de secours,
ouais, des petits plans B, quoi.
Mais pas forcément pour en faire toute ma vie. C'était juste me dire, ben, si je peux pas avoir la voie royale, et ben, je vais faire plein de petits chemins à droite à gauche pour toujours être au plus proche de l'art, en fait.
D'accord. Alors moi, c'est une question aussi que je voulais te poser. Est-ce que tu te considères plutôt comme une artiste ou comme une illustratrice ? Parce que les illustrateurs sont des artistes, mais tous les artistes ne sont pas des illustrateurs.
Mm-hmm.
Mais je sais que j'en avais parlé par exemple avec Léa Bordier, qu'on avait eu dans un déclic, dans un des premiers épisodes. Elle me disait qu'elle avait du mal avec ce mot-là, dans le sens où ça fait très pompeux. Et y a par exemple, elle est réalisatrice, mais elle disait, jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'avais encore beaucoup de mal à me présenter comme telle quand on me demandait ce que je faisais. Est-ce que toi, c'est ton cas, ou est-ce que tu te considères comme une artiste ? Comment tu te considères, toi ?
Enfin,
de toute façon, c'est pas que tu te considères, tu es une artiste puisque tu vis de ton art. Mais est-ce que, par exemple, tu as du mal à parler en ces termes de toi ?
Non, parce que je dirais que déjà, je m'identifie un peu comme les deux.
Mm-hmm.
Parce que pour moi, illustrateur, dessinateur et même un peu les autres métiers autour du dessin, chacun va avoir quand même un certain style. On va préférer dessiner numériquement, avec de la peinture, avec du crayon à deux couleurs comme moi. Mais il y a des moments où, en fait, bah voilà, je vais faire mon propre dessin, je ne vais pas avoir un commanditaire. Mm-hmm. Et donc, du coup, là, je vais plus m'orienter comme étant artiste.
Oui.
Parce que je vais être mon propre chef du début à la fin.
Et puis, tu vas laisser libre cours à ton imagination.
C'est ça. Et après, bah, y a parfois des commanditaires qui viennent me voir, voilà, pour dessiner d'après une photo privée. Mm-hmm. Et je reste l'artiste parce que même si je peux demander est-ce que vous avez des couleurs favorites, est-ce que ceci, cela, et ben ça va être vraiment mon œuvre quand même. Et si la personne va me dire « Ah, mais par exemple, est-ce que tu peux m'arrondir ma fesse et tout ça ?» et ben je vais quand même avoir un peu le dernier mot, alors que même si c'est le client, et ben je vais dire « Bah oui, mais c'est mon œuvre. Si tu viens me voir, c'est parce que tu as confiance en moi, en mon style, en mes choix. »
Ouais.
Et donc bah je vais expliquer pourquoi je vais choisir telle chose et pas une autre. Après, ça reste aussi le même retour que pourrait faire un designer graphique. Mais je dirais que l'artiste, il peut avoir un petit peu plus de poids que le designer,
pour le client.
Ouais, parce que je dirais que le designer, il doit au bout d'un moment un peu se complaire aux désirs du client, même s'il va toujours avoir un rôle d'accompagner, de conseiller au mieux et tout. Mais j'ai l'impression que l'artiste, il va avoir un côté avec un peu plus d'ego et qui peut se permettre de s'imposer un petit peu plus.
D'accord,
que le designer. Sauf si le designer commence vraiment à être très reconnu et que finalement devient un peu artiste aussi.
Ouais.
Ou c'est genre bon. Bah,
c'est après, ça dépend aussi où toi en tant qu'artiste, où tu places ton propre curseur en fait, de tolérance aussi.
Enfin voilà, du coup, je trouve que les deux sont assez liés. Mais ça ne me dérange pas de m'appeler artiste.
Mmh.
Et même illustratrice, c'est vrai que... Ben, comme je suis... j'ai commencé mon métier comme étant graphiste.
Mmh.
Mais dès que je pouvais, je dessinais dans les projets.
Ouais.
Je disais, est-ce que je peux faire des pictos dessinés plutôt qu'en mode un petit peu...
Que des trucs téléchargés sur Shutterstock.
Ouais, voilà. Ou alors juste pas travailler trop avec l'illustrateur et tout ça. Et plus... dessiner à la main et après reprendre éventuellement avec les logiciels, mais il y avoir vraiment une base graphique un peu cursif et tout, comme si on écrivait à la main, quoi.
C'est vrai que toi, c'est une question qui n'était pas dans ma liste, mais c'est vrai que toi, sur ton style, tu gardes toujours de l'illustration à la main, tu es très attaché à ça, parce que dans tous tes projets que l'on peut voir sur tes réseaux sociaux, sur ton site, etc., il y a une base toujours de dessin à la main.
Ouais. J'avais essayé un petit peu de me mettre au logiciel, mais c'est vrai que j'ai du mal à faire quelque chose que je ne connais pas, que je ne comprends pas. Et surtout quand je sais que ça va mettre du temps.
Illustrator, c'est une tannée.
Et ouais, ça a mis beaucoup, beaucoup de temps avant que je sois à l'aise avec Illustrator. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir aussi pas avoir tous les outils.
Oui, la tablette graphique.
Voilà, j'avais pas acheté toutes les options, des brushes, des pinceaux et tout. Et en fait, je dis genre.
Et donc, t'es moins libre, quoi.
Oui, et en fait, je me suis dit. Ben,
t'es pas moins libre, t'es plus limité.
Oui, et après, j'avais pas cette curiosité de me mettre à fond sur ce logiciel.
Bah, faut avoir envie, quoi, parce que les logiciels, c'est comme tous. Hein, si t'as pas envie, c'est vraiment, t'as l'impression d'être face à un mur. T'es emmerdé, t'es vraiment, ça me saoule.
Et après, en même temps, je me suis dit, bah, c'est un peu dommage de choisir, on va dire, la facilité avec un crayon à papier, parce qu'au début, je dessinais qu'au crayon à papier et un peu au feutre.
Ouais.
Et après, sinon, je faisais de la peinture acrylique et aquarelle. Mais puis aussi un peu genre... Enfin, j'utilise plein de techniques et j'aimais en fait ce rendu avec le papier. Et après, les logiciels peuvent aussi te proposer de faire ça. Mais je sais pas, je trouvais que c'était... J'avais plus... Mes sens étaient plus développés en ayant un contact avec le papier. Et aussi, t'as ce côté où tu peux pas revenir en arrière. Si jamais tu rates, ouais. Bah, tu apprends à réparer, ouais. À ranger, ou alors bah, tu recommences sur un autre papier. Quoi. Ouais. Et finalement, tu vois l'évolution de tes dessins.
De ton trait.
Je sais pas, je préférais comme ça. Quoi. Et physiquement, émotionnellement, je préférais développer une technique. Je me suis dit, même si je continue de travailler au crayon à papier comme depuis toujours, et ben, ça m'empêche pas en fait, de toujours progresser et de voir si je peux aller vers un style en particulier.
Ok. Et bien justement, on va passer à ton déclic. Toi, ton déclic sur ton style, justement, c'était de te mettre à faire du dessin érotique. Et en fait, tu t'es fait connaître notamment en faisant des boulis, qui sont ta signature et le noyau de ton art. Comment est-ce que tu décrirais ton style d'aujourd'hui, outre que érotique, et comment est-ce que tu as vu ton évolution vers ce style de dessin ?
Alors, graphiquement, quand je suis arrivée à Paris après mon master, j'ai fait un an de pause. Là, j'ai dessiné beaucoup, mais avec plein de techniques. Et quand je suis arrivée à Paris en tant que graphiste, eh ben, je prenais toujours aussi un petit peu de temps pour moi pour dessiner. Et donc là, j'avais mon crayon à papier et quelques feutres. Et sauf qu'au début, ben, j'osais pas trop faire des choses érotiques, même si c'était un thème qui m'avait toujours intéressée. Et du coup, je dessinais beaucoup de portraits et des animaux.
Ouais.
Et en fait, en croquant tout le temps des portraits et des animaux, et ben en fait, j'ai commencé à trouver un peu un style graphique.
Ouais.
Donc, si je peux le décrire, ce serait vraiment un côté académique.
Ouais.
Donc, c'est-à-dire il y a les bonnes proportions, les bons ombrages et tout ça, c'est réaliste. Mais au fur et à mesure, et ben, mon tracé, avec plein de petites hachures qui aujourd'hui je n'utilise plus en plus, ça a encore évolué, et ben, il y a un côté un petit peu contemporain. Et du coup, je trouvais que c'était assez original parce que à la fois, j'arrivais à avoir ce besoin de réalisme, donc côté académique, et en même temps, je réussissais à me trouver un petit peu mon propre style pour pas que ce soit du dessin vu et revu. Et j'avais beaucoup de personnes à ce moment-là qui me disaient « Est-ce que tu vas dessiner à Montmartre ?» et tout. Je fais « Non. » Non, mais en fait, du coup, en fait, voilà, les gens, ils m'associaient beaucoup à ça, c'est-à-dire un illustrateur qui dessine très bien. Ouais. Après, pas forcément en caricature, mais comme
du
un...
Du dessin extérieur, en voilà, fait. Voilà, c'est ça. Moi, j'en avais des cours en école, ce qu'on appelle du croquis extérieur, où en fait, voilà, tu vas croquer en fait, bah, des monuments, des places. Donc effectivement, à Montmartre, on peut en trouver à Place du Tertre, ou qui vont dessiner la basilique, etc.
Ouais. Après, moi, c'était pas pour dessiner de l'architecture, mais des portraits.
D'accord.
Et c'est juste, quand tu fais des portraits, tu peux donc faire des caricatures, mais aussi des dessins très réalistes.
Bien sûr.
Et sauf que ben, mon style graphique, je voyais bien que je m'en détachais, parce qu'en général, ces dessins-là, ils vont être donc très académiques, donc très réalistes. Et en fait, tous les ombrages vont être effacés avec le doigt.
Ce que je veux dire, un peu dissimulés, ouais.
Voilà, c'est ça, ils vont être estompés. Et alors que moi, je ne fais pas du tout ça. Genre, jamais je travaille avec mes doigts pour faire des ombrages. Je vais toujours appuyer plus ou moins fort avec mon crayon.
D'accord.
Et
moi, c'est ce qu'on m'avait appris personnellement en cours de dessin. Bon, je suis très mauvaise en dessin. Et c'est ce que j'en ai retenu, effectivement, du croquis de nu. On m'avait dit... Pour faire des bons ombrages, il vaut mieux en fait jouer sur le rapprochement des traits ou sur l'appui que tu donnes sur le crayon plutôt que de faire un estompage au doigt, quoi.
Ouais, ouais. Bah après, chaque technique est tout aussi bien les unes que les autres, Mais justement, en fait, je commençais déjà à essayer d'un peu analyser l'univers dans lequel j'arrivais, donc sur Paris, sur les réseaux sociaux et tout. Je venais de me créer un compte Instagram. et en fait, j'avais compris que même si j'avais le droit de dessiner des portraits si j'avais envie et tout ça, mais pour pouvoir un peu sortir du lot, il fallait que je me trouve un style un petit peu plus original.
Ouais.
Et en même temps, il fallait aussi que ce soit un style que j'aime.
Oui.
Et enfin que j'aime pratiquer, parce que je dessinais par exemple au feutre et il y avait déjà beaucoup de personnes qui travaillaient avec cette technique-là et surtout juste à la ligne. J'aimais bien juste dessiner une silhouette, donc là c'était aussi agréable de dessiner un corps soit juste du nu sans forcément avoir de l'érotisme, mais il y avait déjà beaucoup d'artistes qui faisaient ça, genre Petite Luxure, Regard Coupable, t'avais aussi Estine Coquerel qui faisait ça, et j'adorais, et je faisais des dessins aussi un peu dans le même genre, mais je me suis dit, mais je veux pas qu'on dise, ah mais tu fais comme tel. Et donc en fait, quand j'ai fait quand j'ai commencé à faire des expositions à Paris, la toute première c'était sur des portraits, et j'avais fait que du crayon à papier. Et je m'étais dit, déjà, les gens, j'ai l'impression qu'ils aiment bien, je dessine vite, donc je peux dessiner aussi beaucoup. Et j'ai l'impression que je commence à avoir un style graphique. Mmh. Ensuite, on me propose une deuxième expo, et là, je me suis dit, bon, je vais avoir 25 ans. Je sens que je peux commencer à me présenter comme telle avec ce style-là, sur les réseaux et sur Paris. Mais je sens que j'ai pas forcément envie d'avoir comme métier de dessiner les portraits des gens. Et en fait, je commençais à vraiment me dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire et qui suis-je en fait aussi vraiment. Et donc, en fait, j'ai fait une série d'autoportraits assez un peu prude, genre très un peu réservée, timide. Donc, j'ai fait surtout beaucoup de dos. Et y en a seulement 2-3 dessins où là, j'ai un petit peu plus osé une orientation un peu plus érotique. Et en fait, bah, je me rendais compte que j'adorais dessiner le corps, j'adorais provoquer du désir. Et après, le fait que ce soit des autoportraits, c'était surtout pour savoir de quoi j'étais capable.
D'accord.
Et c'est-à-dire de me montrer, mais après, c'était pas non plus explicite que c'était moi que je dessinais. Je voulais que ce soit suggéré.
D'accord.
Et parce que c'était pas forcément moi que je voulais mettre en avant, mais je voulais voir vraiment donc, de quoi j'étais capable. Mm-hmm. Est-ce que je peux oser démontrer un dessin de moi sans forcément dire que c'est moi ? Donc il y a quand même une part de protection, d'identité. Et après, voir au premier abord, est-ce que le public, qu'est-ce qu'il va dire ? Donc, je suis une jeune femme qui dessine donc du nu. En plus, c'est donc plus ou moins suggéré que c'est moi que je dessine. Mmh. Et c'est vrai que, avec toute la culture de l'érotisme d'il y a 6 ans maintenant, qui a quand même beaucoup évolué, mais c'était difficile pour moi de me dire est-ce que je vais me faire insulter ou des choses comme ça, quoi.
Bah, bien sûr, quand on est une femme sur les réseaux sociaux, c'est une donnée qu'on doit malheureusement prendre en compte. Hein. On en parle beaucoup ici, mais c'est des choses dont il faut se rendre compte. Les femmes le savent, hein, mais vous, messieurs, si vous nous écoutez, voilà, c'est quelque chose, effectivement, dont il faut se rendre compte. Où, en fait, on a réfléchi toujours à deux fois dans ces cas-là parce que... pas envie de se faire insulter ou harceler. Et puis, il faut avoir les épaules pour toutes les femmes qui s'exposent sur les réseaux sociaux. Moi, je suis admirative parce que... entre les commentaires graveleux, les commentaires qui les traitent de femmes de petite vertu et les commentaires qui vont critiquer le physique en disant t'as un bourrelet là, t'as des poils ici, etc. C'est un enfer.
Ouais, tout à fait. et du coup, en fait, pour l'instant, c'était donc à une petite échelle parce que j'avais pas beaucoup de followers. Il y avait que mes amis, en gros, plus quelques amis d'amis et ma famille. Mais du coup, c'était déjà passé une première étape de montrer des dessins de nu, même pas érotiques, donc c'était plus du nu artistique, et de voir comment mes parents vont réagir aussi, comment les parents de mes amis vont réagir.
Et puis certains amis aussi, quoi.
C'est... Oui, c'est ça, et en fait, j'ai eu que des bons retours parce que c'était vraiment des dessins un peu timides.
Ouais.
Donc il y en avait juste 2-3 qui étaient un peu plus osés, donc il y avait un buste où je montrais mes boobs et bien en avant, tu vois, et l'autre où j'attrapais les fesses.
D'accord.
Avec mes mains, Et finalement, c'était presque ces dessins-là qui étaient les préférés.
Ouais.
Et ce que les gens, ils ont commencé à me dire pour cette première expo vraiment orientée sur le corps, et ce qu'on me dit toujours encore aujourd'hui, c'est que mes dessins, ils sont à la fois sensuels, donc parfois aussi érotiques, mais pas vulgaires.
Ouais, non, moi je te vois, très honnêtement, de plus en plus certains, moi je les trouve érotiques tes dessins, mais je les trouve plus sensuels qu'érotiques. Mm-hmm. Parce que tu vois, par exemple, pour moi... regard coupable ou peut-être luxure, là c'est plus de l'érotisme parce qu'on va suggérer aussi la pénétration, le sexe ou un sexe anal, tu vois, ce genre de choses. Et toi, t'es moins là-dessus, t'es plus sur le corps et l'emmêlement des corps plus que vraiment sur la façon d'épeindre un acte sexuel en fait, ouais. Ou suggérer un acte sexuel.
Bah, c'est vrai qu'on n'est pas trop dans la même approche avec ces deux artistes-là, parce que comme ils travaillent en silhouette, juste donc le contour des corps à la ligne, une ligne noire en général, ils vont vraiment mettre une situation en scène. Et donc, c'est vraiment, on va voir une fellation, une éjaculation, des trucs comme ça. Alors que mes dessins, comme je vais vraiment dessiner le corps en entier, sa chair, ses plis, ses ombrages, on va pas forcément voir la scène en soi. En fait, il y aura plusieurs niveaux de lecture, du coup. Et comme on va être assez étonné de voir un grain de peau, de voir des corps rouges, des corps bleus, orange, vert, enfin toutes les couleurs, on va aussi se concentrer sur la chair, la sensualité, l'émotion, plutôt que vraiment sur ce qui se passe en soi, quoi. Et après, c'est aussi parce que j'aime bien créer donc toujours en fait du désir, et pas nécessairement montrer un acte sexuel direct.
C'est vrai que c'est plus suggestif en effet.
Après, quand on me dit qu'on aime bien mon travail parce que c'est pas vulgaire, il y a des moments où je me dis après des fois j'ai envie de faire aussi des choses vulgaires, et que c'est pas mal non plus.
Et puis tu fais pas ça pour en te disant je veux pas que ce soit vulgaire, c'est juste qu'en fait c'est ton style qui est comme ça, et voilà, c'est Mais ce qui t'a fait connaître, Marie, c'est les boulies du lundi.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet-là ? Donc, on était là à la genèse de ton art, et là où t'as commencé à faire tes dessins érotiques et sensuels. Et maintenant, on va parler du moment où ça a commencé à exploser. Donc, c'est avec les boulies du lundi. Est-ce que c'est bien avec ça que t'as explosé ? C'est bien
ouais,
ça.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est les boulies du lundi et quel était le projet ?
Alors, du coup, en fait, pour revenir un tout petit peu en arrière, donc si on revient sur mon expo. D'autoportrait qui s'appelait Grain de beauté, et un an et demi plus tard, on me repropose de faire une exposition. Et là, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait depuis tout ce temps ? Et en fait, je sors tous mes dessins que j'avais publiés sur Insta, ceux que j'avais pas publiés, tout ça. Et je me rends compte que j'avais dessiné beaucoup de fesses. Et donc, je me dis, je vais faire une expo de fesses. Et donc, j'avais appelé cette expo pêche parce qu'il y avait beaucoup l'émoticône pêche qui était utilisée pour représenter la fesse et tout. Après, c'était tellement. Ça a tellement saoulé Instagram qu'il a commencé un peu à censurer l'usage de cet emoji. Mais en tout cas, à cette époque-là, je me suis dit, je vais faire une expo que je vais appeler pêche et je vais faire que des dessins de fesses. Là, ça a super bien marché. J'avais déjà un peu plus de réseaux en vrai sur Paris. Donc, des gens que je connaissais, que j'avais rencontrés, avec qui j'avais travaillé. Et je commençais à avoir peut-être 2000 followers sur Insta, ce que c'était assez, vachement bien déjà à ce moment-là.
Plus t'as de followers, plus t'as de followers, hein, généralement. Oui, c'est une fois que tu passes un palier comme ça, 2000, 5000, après ça commence à augmenter pas mal, quoi.
Après, tout dépend aussi.
Si tu continues à bien poster, etc., et que ça continue à plaire.
Après, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi certaines stratégies qu'on pouvait avoir pour avoir plus de followers, mais je me suis rendu compte aussi que ça pouvait aussi vraiment dépendre de avec qui tu travailles. Ça, on pourra en parler tout à l'heure. Je fais cette expo, ça marche vachement bien, mais il n'y a pas une explosion encore non plus. J'ai quand même un côté un petit peu ambitieux.
Bien sûr.
J'avais surtout envie de pouvoir... je savais que c'était possible d'avoir du succès. Donc je ne vivais pas encore de mon travail à ce moment-là. Je savais que c'était possible d'avoir du succès dans le milieu érotique, que ce soit sur Instagram ou en vrai, parce que il y avait des artistes avec qui ça cartonnait. Mais je savais que mon style pouvait être un petit peu particulier par rapport à ce qui était vraiment les tendances sur les réseaux. Donc c'était surtout bah voilà, des dessins à la ligne, en noir et blanc plutôt et tout ça. Et donc bah, je m'accroche un peu à cette idée que bah, en tout cas les fesses ça plaît. Ça me plaît aussi d'en faire parce que bah, y a tellement de choses à faire. Et surtout au début je voulais faire vraiment que des fesses sans trop dessiner des visages, des hauts de corps. Parce qu'en fait je voulais justement brouiller aussi un petit peu les codes et en fait ne pas laisser les gens... vraiment savoir s'il s'agit d'une femme, d'un homme ou de quelqu'un non genré ou d'un trans et ça m'amusait aussi de voir que les gens ils allaient même pas forcément se poser la question de si c'est un homme ou une femme et qui en fonction de la forme du corps que j'allais dessiner ils allaient dire ah bah là t'as dessiné un homme, là t'as dessiné une femme alors qu'en fait ben c'était vrai ou pas en fait.
Et c'est là encore le travail de suggestion et de laisser libre cours à la réflexion des personnes en face. Quoi.
Ouais, et en même temps, c'était aussi une analyse de la société.
De se dire que fesses rondes égale femme.
Oui, voilà. Ouais. Alors qu'en fait, ben, pas du tout.
Ouais, c'est clair.
Et du coup, ben, c'est là aussi que mon côté un peu designer de formation prenait un peu le pas où je me suis dit, ben voilà, j'aime bien dessiner des fesses. Les gens, ils aiment ça aussi. Parce que ben, la société a fait aussi que les gens aiment les fesses. Mais je me suis dit, bah, je ne peux pas juste dessiner ça pour dessiner ça, parce que j'ai l'impression de devoir me justifier. Et justement, pour ne pas être insultée ou des choses comme ça. Et même si bah, pour l'instant, je n'avais toujours pas de mauvais retours, je voulais vraiment qu'il y ait un message derrière. Et, pas, voilà. Et donc là, il y a un côté aussi un peu, tu es l'illustrateur. Ou alors, est-ce que tu es l'artiste? C'est-à-dire, est-ce que tu fais juste ça parce que tu as envie? Ou est-ce que tu as aussi un truc à dire vraiment?
D'accord.
Et du coup, ben, l'été passe. Donc ça, j'avais fait cette expo en avril 2019. Et on arrive à la rentrée de septembre. Et ben, pendant les vacances, j'avais eu le temps de dessiner une ou deux paires de fesses. Mais je me disais, ben, là, je n'ai pas prévu de faire une expo. Comment je peux justifier que je sors un dessin de fesses comme ça?
Ouais.
Et on était un lundi, ce jour-là. Et je me suis dit... Enfin, je regardais un peu ce qui se passait sur Instagram... Et là, on arrive, j'arrive sur Insta et je vois plein de publications où des gens disaient qu'ils étaient déprimés parce qu'on était lundi et tout. Et je me suis dit, ben, les gens sont déprimés, ben, moi, je vais leur donner du cul et ils vont être contents, tu vois. Et en fait, ben, c'était un peu parti de, c'est parti de ça. Et du coup, je me suis dit, vas-y, j'ai publié un bouli du lundi. Ouais. Et en fait, le bouli, ça vient du mot boule, le boule de quelqu'un, les fesses de quelqu'un. Et en même temps, bouli, il y avait un côté un petit peu plus naïf, sans être trop non plus enfantin. Et il y a un côté un peu mignon et en même temps...
Le petit rendez-vous, quoi.
C'est, ouais,
puis,
voilà.
Puis il y a le petit rime qui fait...
Oui, voilà, le bouli du lundi. Oui, c'est ça aussi, la rime, c'est super important. Et donc, ben, je me suis dit, vas-y, je poste le dessin que j'avais de côté. Et j'ai dit en légende et sur les stories, est-ce que ça vous dit si on remet ça lundi prochain?
Ouais.
Et les gens, ils ont dit oui. Et en fait, à partir de là, bah, tous les lundis, j'ai fait une création.
Ouais.
Et tous les lundis, sans exception, jusqu'à fin juillet 2020. Donc, ça a duré pendant 11 mois. Et après, tout le mois d'août, j'avais arrêté. Et en fait, j'ai appris énormément de choses sur Instagram, sur ma manière de dessiner, sur mes collaborations et sur tous les sujets aussi à faire. Et en fait, j'ai encore eu très, très peu de messages négatifs sur le fait que je dessine des corps plus ou moins érotiques. Mais en fait, il y a beaucoup de personnes qui m'ont questionné sur les sujets en eux-mêmes.
Ouais.
Pourquoi tu dessines tel type de corps, pourquoi on n'en voit pas tel type de corps, pourquoi ces couleurs, pourquoi pas des vraies couleurs. Et en fait, voilà, il y a eu plein de questionnements autour de ce projet, mais c'est de là qu'il est parti. Et en fait, en faisant aussi parfois pas mal de collaborations avec des photographes, des modèles, d'autres artistes, et ben, ma communauté aussi se développait parce qu'ils partageaient mon travail ou notre collaboration. Ouais. Et donc, j'avais de plus en plus de visibilité avec des communautés qui étaient intéressées par ça. Parce qu'avant, je faisais aussi des projets avec des grosses communautés, enfin des gros comptes qui avaient des grandes communautés, mais sauf que ce n'était pas dans un univers qui était vraiment le mien, ni de dessin. Du coup, en fait, les gens, ils s'en foutent un peu et ça me faisait pas vraiment tant de publicité, ouais. De visibilité que
oui,
ça.
Oui, parce
quoi.
Que ça les touchait pas.
Ouais. Et donc, avec le bully des lundis, en choisissant bien mes collaborateurs et tout ça, et puis en faisant des dessins aussi qui parlaient aux gens, ça a favorisé aussi plus de partage. Et du coup, c'est là que mon succès a vraiment démarré, quoi. Et que même mon entreprise en soi a vraiment démarré aussi dans cet univers. Et c'est à partir de 2019-2020 que j'ai commencé vraiment à gagner ma vie et d'être autonome financièrement, quoi.
Et c'est là aussi où tu as commencé, ce qui t'a bien aidé à enfoncer le clou du succès, c'était aussi les butt stickers. En fait, c'est des petits stickers de couleurs vives, donc du vert, du bleu, du rose, du jaune, sur lesquels il y a une silhouette de fesses. Mais là, cette fois, effectivement, qui est ce que tu appelles en dessin silhouette avec juste un trait en fait, noir
ouais, ça, d'une c'est, fesse. Ouais,
là... Et ça, du coup, en fait, au début, t'en distribuais, c'est ça ? Toi-même, tu les collais ?
Ouais.
Et après, tu t'en donnais ou en vendais aux gens et les gens en ont collé un peu partout dans le monde.
Oui, c'est ça, exactement. les butt stickers, c'est arrivé... J'arrive même plus trop à me souvenir si c'était en 2020 ou 2019. Je sais plus si c'était... Oui, c'était quelques temps après la première expo pêche. Et donc c'est pas la première expo mais donc l'exposition pêche et en fait j'avais fait une petite série de fesses pendant cette expo là mais donc juste à la ligne et en fait je voyais bien que ça plaisait, je me suis dit vas-y je vais en faire des petits stickers et donc en gros la ligne noire restait, c'est juste les positions qui changeaient un peu des fesses mais je voulais qu'il y ait des couleurs en fond. Donc, du coup, j'avais fait toute une série. Sauf que c'était vraiment sur du papier autocollant que j'avais acheté, qui était tout pourri. C'est moi qui avais imprimé, j'avais découpé moi-même et tout. Mais en fait, c'était juste pour voir si ça pouvait intéresser les gens. Et comme ça a commencé à intéresser les gens, j'ai redessiné bien chaque silhouette avec un trait plus épais pour que ça se voit mieux dans la rue. Et après, j'ai tout commandé en 10 000 exemplaires.
Ouais.
Donc, c'est-à-dire 1 000 exemplaires de chaque dessin. Donc, il y en avait 10. Et après, à la rentrée de septembre, je crois, un truc comme ça, donc 2019, là, j'ai sorti ces butt stickers, donc les officiels. Et après, de base, comme j'en avais commandé beaucoup, ça me coûtait pas trop cher et je pouvais très vite rentabiliser avec les ventes. Et donc, en fait, j'en donnais aussi énormément. Ouais. Dès qu'on commandait un dessin, j'en donnais.
Oui, tu leur donnais un petit cadeau et puis t'en donnais à tes expos.
Ouais, c'est ça. Et donc, là, pareil, c'était chouette parce que tout le monde m'envoyait des photos, des stickers qu'ils avaient collés. J'en publiais aussi beaucoup, donc ça devenait un challenge, un jeu.
À qui mettrait le butt stickers dans un endroit le plus insolite.
Ouais, c'est ça, voilà. Et du coup, après, ça a fait ça pendant un an. Donc, pareil, pendant toute la période du bully du lundi aussi. Et comme ça, en fait, ça me faisait aussi plusieurs projets en même temps et pas tout le temps tourner autour de la même chose parce que même si j'adorais dessiner des fesses, de temps en temps, j'avais envie de dessiner autre chose, quoi. Ouais. Ou alors parler d'autres choses. Donc là, au moins, ça me faisait...
Et puis même aussi de pas t'enfermer dans un seul truc...
Ouais, et après, donc j'ai liquidé tous mes stickers en un an, et là, j'ai fait une nouvelle collection que j'ai sortie en mai, donc 2021, et là, en fait, j'ai voulu sortir un peu des dessins à la ligne, parce que c'est plus ce qui me représente, même s'il y avait des personnes qui me disaient « mais c'est intéressant, parce qu'on est intrigués », et on va découvrir un autre style encore plus poussé. Donc, c'est sympa d'avoir quelque chose de plus simple.
Oui, de plus facile à aborder, quoi.
Ouais. Et sauf que je voulais voir quand même si c'était possible d'avoir des stickers qui peuvent intriguer les gens au premier abord. Et surtout qu'en fait, ce qui me gênait avec la ligne, c'est que je ne peux pas représenter totalement un corps tel qu'il est. Parce que...
Les plis de la peau, les grains de beauté. Parce que toi, tu dessines beaucoup s'il est... Les détails de la peau, donc ça peut être des cicatrices, des cicatrices, les toutes petites rondes qu'on a, des cicatrices d'acné, des grains de beauté, le grain de la peau, tout simplement. Quoi.
Ouais, voilà. Et puis, en fait, après aussi, avec les ombrages, je peux révéler un bourli.
Un bourli du mardi.
Un bourrelet ou un creux de peau. Ouais. Alors que, en trait, c'est difficile à mettre en forme. Et puis des fois après il y a eu ça c'est moins mais je trouvais, enfin je veux dire là on ne sera pas obligé de le mettre, mais que les certains commentaires, si je voulais dessiner par exemple un grain de beauté, on pouvait dire c'est des boutons, un truc comme ça, chiant quoi. Et alors que ben, si je dessine vraiment toute la peau, le grain, avec des ombrages qui vont m'aider à montrer en fait le volume, montrer que c'est des fesses plates et qu'elles ne sont pas bombées, les ombrages peuvent m'aider à montrer ça. D'accord, plutôt ouais. Que la silhouette.
Oui, ça permet plus de détails.
Ouais. Et puis je trouve que bah, ça me représente vraiment et ça m'éloigne un peu plus aussi bah, des contes qui dessinent juste aussi à la silhouette. Et donc j'ai testé ça et ça plaît toujours, mais j'ai moins de temps pour vraiment communiquer dessus, pour aller coller. Ouais. Je sens aussi que j'ai envie de faire d'autres choses, mais que c'est quand même un projet qui me tient à cœur parce que ça me permet de représenter plein de corps différents dans un contexte hors érotique aussi, quoi. Et puis après, les gens, ils commencent à s'amuser du fait que bah, j'ai plusieurs collections, que j'ai ouais. plusieurs couleurs. Là, j'ai sorti une collection en papier holographique. Donc, en D'accord, fait, il y a toujours le dessin, mais le fond du papier est genre brillant, arc-en-ciel.
Ouais, trop bien.
Et du coup, les gens, ils commencent à faire collection. Et tout. Du coup, c'est quelque chose que je vais continuer, même si j'ai moins de temps pour, on va dire, vraiment m'amuser sur le terrain avec.
Ouais. Et tu disais que tu as un peu d'ambition, donc tu avais envie d'un tel succès, mais est-ce que tu t'attendais à avoir un tel succès, notamment par les boules, les boulies ?
Bah oui et non. C'est parce qu'en fait, quand j'ai commencé à dessiner donc, des corps, je voyais que ça plaisait, mais je n'explosais pas encore. Ouais. Et donc, je ne savais pas si c'était possible, surtout avec mon style de dessin. Mmh. Et quand ça a commencé vraiment à exploser, donc c'est-à-dire que je commençais à avoir 1000 followers par mois et tout ça, et ben, je me suis dit, bon, là, c'est quand même sérieux. Ouais. Mais en fait, je me rendais compte que plus tu pouvais avoir de followers, plus tu pouvais aussi avoir un peu de stress sur ouais. quand tu publies. Est-ce que les gens ils vont aimer du coup, tu as... Voilà, t'as plus de pression et c'est petit à petit aussi moins agréable parce que au lieu de kiffer, eh ben, tu stresses, quoi. Ouais. Et après, tu te dis, mais si je publie, c'est parce que j'ai juste envie de publier quelque chose qui me tient à cœur, quelque chose qui pourra faire aimer des gens, les toucher, même si ce sera pas tout le monde, tant que ça touche quelques personnes, c'est ce qui compte, en fait. Et donc, du coup, bah, je pouvais avoir des créas qui pouvaient, on va dire, avoir... surtout vers quelques mois après les premiers boulis du lundi où je commençais à avoir beaucoup de personnes qui suivaient mon compte. Mais on va dire qu'une création qui marchait moins bien, je pouvais avoir autour de 1000 likes, parfois plus, parfois moins. Et une créa qui marche très très bien, je pouvais aller jusqu'à 3000, 4000, 5000. Et c'est toujours un peu le cas aujourd'hui. Et je me dis, c'est clair que je peux avoir 2000, 3000, 3, 4000 likes de différence entre chaque dessin. Mais tant qu'en fait, j'y mets toujours autant d'intérêt, de passion, et, ouais. et que ça touche aussi des gens, parce que donc, des fois, je vais dessiner par exemple un portrait d'une personne connue ou pas. Et ben, si ça peut toucher certaines personnes, bah, je me dis, bah, c'est bon, en fait, c'est gagné déjà, même si j'ai trois fois moins de likes. Et c'est juste que bah, de temps en temps, si j'ai besoin un petit peu de faire plaisir à mon ego, et ben je sais que je sais quel dessin faire, en fait.
Ouais, c'est un sort un bouli et puis.
Voilà. Et encore pas n'importe quel bouli. Oui, c'est là ça. Aussi des fois qui peut être un peu énervant, c'est
oui, parce que tu te dis un bouli c'est bon et puis tu vas déchanter en voyant que bah ce type là marche moins.
Hein. Ouais, et c'est là aussi que tu te rends compte que il y a des choses à faire au niveau encore... de.
Les avis sont encore biaisés, c'est-à-dire qu'un bouli qui rentre pile dans les standards de beauté va beaucoup plus marcher que quelqu'un. Ouais. Qui va montrer en fait des corps un peu plus normaux entre guillemets, oui. en tout cas pas magnifiés comme on les voit sur les réseaux sociaux, quoi.
Et du coup ça m'énerve un peu je me dis mais c'est pas forcément de la faute de mon public, mais c'est aussi un peu de la faute de la société, mais ça évolue aussi, donc j'ai l'impression aussi là de commencer à être utile dans ce projet là
c'est ce que j'allais dire,
où ben, j'essaie de participer à faire changer le regard sur le corps.
Et à montrer en fait que tous les corps ne sont pas des corps avec des fesses en goutte d'eau, sans oui. aucun pli, sans aucun bourrelet, sans aucun grain de peau, alors que ce n'est pas vrai. C'est, à part sur Photoshop, ça n'existe pas, bah, ces types de fesses, voilà. parce que même la femme qui a les plus belles fesses du monde, elle peut avoir des boutons dessus, des cicatrices dessus, des poils...
Et c'est surtout aussi montrer que ces corps qui correspondent pas aux standards de canon de beauté, ils peuvent être aussi sensuels, ils peuvent être érotiques, et peu importe aussi ton genre.
Voilà, et le désir, elle n'a pas de genre, n'a pas de sexe, n'a pas de couleur, n'a pas de forme.
Voilà. Et donc, ben, du coup, en fait, j'alterne aussi parfois pour étudier un petit peu ma communauté, voir...
Tu fais des tests.
Ouais, c'est ça.
Non, mais c'est bien, bah, c'est ce qu'il faut faire.
Et en même temps, il faut que ça reste aussi un kiff. Et après, en même temps aussi, il faut que je puisse faire quelque chose aussi de ces créations. Parce que bah, c'est cool de faire des tests et tout ça. Mais il faut que je puisse bah, vendre après les dessins oui. et en vivre aussi. Quoi.
Bien sûr. Et alors, ça va être mes deux dernières questions parce qu'on a beaucoup parlé. Et du coup, on va plus avoir de place après pour l'épisode. Quelles sont tes ambitions pour l'avenir?
Bah en fait, j'avais donc mes ambitions que j'avais il y a quelques années quand je voulais, on va dire, réussir entre guillemets, et bah je les ai atteintes, c'est-à-dire ouais. que je voulais vraiment dessiner et vendre et en vivre autour de cet univers érotique ou autour du corps. Donc ça, c'est bon. Ensuite, je voulais avoir une grosse communauté, mais pour moi, une grosse communauté, c'était entre 10 000 et 30 000 likes, bah, enfin 30 000 likes, 30 000 followers abonnés, ouais. Abonnés, ben c'est bon aussi. Et après, ben c'est tout en fait. Parce que après, en fait, je voulais pas forcément. Enfin, c'est vrai que ça fait plaisir quand t'as beaucoup, beaucoup de likes et beaucoup de followers. Mais il faut que ce soit vraiment authentique. C'est-à-dire que ben, si j'ai 30 000 followers, et ben, il faut que j'ai aussi beaucoup de likes. Sinon, si j'ai 30 000 personnes qui me suivent, mais que j'ai que 100 likes, c'est qu'il y a un déséquilibre. C'est que les gens, en fait, ils s'en foutent un peu. Ils sont abonnés, ils m'ont oublié. Et en fait, c'est pour ça que je travaille aussi beaucoup mes stories, mes publications. Ouais. Je vais avoir une interaction avec les gens. Certes, pas souvent, mais quand je suis présente sur Insta, eh ben, il faut que ce soit à fond, que je sois là à fond. Et du coup, il y avait une des questions que tu me demandais sur le texte. Ouais. Je ne sais pas si on peut en parler.
Mais c'est bien sûr, évidemment.
c'était quelle est une journée type.
Oui, voilà.
Et en fait, il n'y a pas vraiment de journée type. C'est plus une semaine type.
D'accord.
Où il y a, on va dire, on peut commencer avec un lundi. Si jamais j'ai une créa qui est prête, eh ben, je finis de préparer les stories. Je prépare aussi les choses dont il faut que je parle. Par exemple, j'ai une collaboration.
Oui, ce que j'allais dire, ouais, ou un client.
Un client ou même quelqu'un que j'aime bien, qui a sorti un livre, je vais en parler. Mmh. Donc en fait, je crée un peu mon cheminement de story.
D'accord.
Ensuite, je prépare le dessin, c'est-à-dire que à chaque fois que je fais un dessin, je le scanne plusieurs fois pour qu'on voit l'évolution.
D'accord.
Et donc, je prépare tout ça. Ensuite, dès que je lance les stories, bah, ça prend plusieurs heures.
Là, ça prend du
parce
temps.
Parce que même si je prépare un peu mon texte, et ben, en fait, je l'écris quand même en live.
Ah, bah, de toute façon, les réseaux sociaux, c'est beaucoup de taf. Hein.
Oui, oui. Du coup, bah, en fait, après, ça me prend plusieurs heures pour préparer ça. Ensuite, on arrive au mardi. J'ai eu beaucoup de messages. Du coup, ben, ça veut dire qu'il faut que je réponde à tout le monde. Enfin, je suis pas obligée, mais moi, j'aime bien le faire. Mais sauf que ça peut aller d'un message genre « bravo,
oui,
bon taf ».
Et un petit like et un merci et ça part. Et...
Ou alors bah, des questions, un échange. Et donc, bah, en fait, quand je réponds à tout le monde, bah, après, c'est pas fini parce qu'en fait, il y a les gens qui m'ont répondu. Ouais. Et du coup, bah, ça me prend un jour ou deux. Donc là, bah, on arrive éventuellement au mercredi, jeudi. Et donc, à ces jours-là, bah, en fait, là, il faut que je me remette un petit peu au boulot parce que bah, soit j'ai un dessin à faire pour bah, un autre boulis du lundi, soit bah, j'ai des commandes de dessins imprimés, donc il faut que je prépare les colis, soit bah, j'ai des commandes de dessins pour un article où j'ai un peu de deadline, donc il faut que je les fasse. Donc, en gros, bah, là, il me reste 2-3 jours pour faire des colis et avancer des dessins. Mais sauf qu'à côté, j'ai aussi des mails à répondre, j'ai aussi des factures à faire.
Puis des commandes à honorer privées, voilà, comme tu disais, portraits de collaborateurs dans une jeune entreprise.
C'est ça, et sauf qu'en fait, avant, quand je faisais un dessin, ça pouvait me prendre une après-midi tout compris, c'est-à-dire je fais mes recherches, je fais mon dessin, je le scanne, je continue mon dessin, je le finis. Je prépare quelques visuels avec Photoshop et tout. Ouais. Et c'est fait, quoi. Alors qu'en fait, maintenant, j'ai besoin de moins 2-3 jours pour faire un dessin complet parce que ma manière de dessiner a évolué et j'ai besoin de beaucoup plus de temps. Et donc, du coup, en fait, si on commande un ou deux dessins pour un article et un dessin pour un client privé et qu'en plus, il faut que je fasse un boulis du lundi parce que bah, les dessins que je suis en train de faire, soit je ne peux pas les montrer maintenant, soit bah, je n'ai pas le droit de les montrer si c'est un privé qui n'a pas envie. Et bah, du coup, en fait, bah, j'ai plus le temps. Et puis après, j'ai besoin d'un jour minimum, voire deux, pour faire des colis et les envoyer. Et après, si je fais des stories, donc besoin d'un jour. Ouais. Et puis après, j'ai un ou deux jours pour répondre. Et en fait, bah...
T'as des semaines de 10 jours.
Et voilà, c'est ça. Et après, j'ai plus de vie privée non plus.
Et puis moi, j'aime bien dormir parfois et manger et aller aux toilettes.
Voilà, c'est ça. Et du coup, ben, c'est pour ça qu'en fait, là, si on revient à la question de quelles sont mes ambitions, en gros, depuis que j'ai atteint un succès avec le Bully du lundi, eh ben... Ma quête, c'est vraiment de trouver un rythme sain, en fait.
Est-ce que tu ne serais pas aussi le moment d'embaucher, pourquoi pas, un social media manager ?
Ben...
Tu vois, pas forcément à plein temps, mais à mi-temps, quoi. C'est-à-dire que quand il y a les stories à faire, au début, tu le fais avec lui, et puis après, bah, tu vois, il roule tout seul et c'est lui qui s'en occupe, quoi.
Ouais,
mais déléguer, c'est dur.
Oui, déléguer, c'est dur. Et après, en fait, c'est surtout que des fois, bah, j'ai pas le temps de le faire le lundi, ouais. Donc je le fais mardi avec un autre projet. Et si jamais j'ai pas le temps, bah, je le fais un lundi-dimanche. Ouais. Et du coup, ben. Comme en fait, j'aime bien aussi le fait d'être assez libre dans mon emploi du temps. Alors que si jamais je travaille avec quelqu'un, bah, il faudra... après, ça pourra me permettre d'être encore plus organisée. Mais des fois, j'ai des amis artistes qui m'aident. Genre, je les emploie pour une après-midi, pour quelques heures. Et ils m'aident à faire des colis, trucs comme ça. Et après, je reste assez maître de mes stories parce que je me dis, si j'ai un social media manager qui vient, et bah, est-ce qu'il a éventuellement accès à mon compte, donc il a accès à mes messages. Et après, donc aujourd'hui, je suis un peu plus organisée, mais avant, je pouvais avoir des messages très privés, où j'en ai toujours.
Oui, parce que c'est difficile de dissocier. Bah, c'est ton compte perso,
pro. J'ai même pas de compte perso, j'ai que ce compte-là.
Ton compte perso, c'est devenu ton compte pro au fur et à mesure de ton succès, donc effectivement, oui.
Et du coup, bah, mes ambitions aujourd'hui, ce serait donc d'avoir un rythme qui marche toujours. Et c'est ça aussi, c'est que bah, j'avais checké tous mes trucs que je voulais, mais en même temps, bah, on sait bien qu'un succès, bah, voilà, c'est arrivé et c'est reparti, tu vois. Et je voulais pas me reposer là-dessus parce que bah, j'avais envie que ça reste. Mm-hmm. Et en même temps, je voulais pas m'ennuyer, je voulais pas ennuyer mon public. Donc en fait, ma quête aujourd'hui, c'est juste développer. Après, peut-être que s'il arrive un jour à 100K, ce serait trop stylé. Mais en fait, c'est pas quelque chose que je veux vraiment forcément tout de suite.
Ouais.
Parce que je me dis déjà que c'est un petit peu compliqué à gérer 30 000, 35 000 abonnés, plus autant de demandes de création, plus moi qui mets plus de temps à dessiner. Et ben chaque chose en son temps. Ouais. Tant que j'arrive à pas être trop stressée par Instagram.
Par palier,
Et du coup, tout le côté confinement l'année dernière, ça m'a appris aussi à me déculpabiliser de pas être sur Insta parce que j'avais pas envie, parce que j'avais d'autres choses à faire. Ouais. Et des fois aussi, en ayant beaucoup de succès, bah, on va beaucoup te demander aussi de faire des collabs ou de parler d'un projet, tu vois, parce que moi, les stickers, je les avais envoyés à pas mal d'artistes. Mmh. Et donc, bah, j'avais pas de contrepartie, ils n'étaient pas obligés d'en faire des stories et tout, c'est juste parce que je les kiffais et que, dans tous les cas, je savais qu'ils allaient en faire quelque chose, et c'est ça que je voulais, quoi.
Voilà, même si c'est le coller sur leur ordinateur.
Ça parlera déjà un petit peu. Et sauf que le jeu d'Insta, c'est quand même de faire des stories avec. Et sauf que eux, ils font pareil avec moi. Ils m'envoient leurs livres, ils m'envoient des dessins.
Oui, donc ça rajoute encore des choses à mettre en avant.
Et des fois, j'ai l'impression d'avoir plus de taf à faire pour faire de la pub pour les autres que moi, du temps pour faire un dessin et enfin le publier, tu vois. Du coup, j'essaie de trouver aussi un équilibre avec ça. Et donc là, ma quête, c'est vraiment de pouvoir continuer de développer, de ne pas m'ennuyer, de ne pas ennuyer mon public et de continuer à en vivre. Et voilà, quoi.
Et ma dernière question, c'est une question avec laquelle on aime bien clôturer avec Sophie. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à la petite Marie qui n'aimait pas l'école et qui voulait être artiste mais qui ne savait pas comment faire ? On a réussi. Top là, petite Marie.
Oui, c'est ça. Je pense que c'est vraiment accroche-toi. Je voudrais pas dire de changer certaines choses parce que j'en suis arrivée là où j'en suis. Mais c'est plus que tout le côté où on vient plus sur une question de société où en fait les filles doivent être globalement calme, studieuse, bienveillante, tu dois faire tout pour tout le monde, donc ouais. être parfaite pour ton mec, ou on va dire mec parce qu'on va être dans une société hétéronormée.
Bien sûr.
Parfaite avec ta famille, parfaite avec tes potes, parfaite avec ton corps, avec ton travail et tout. Et en fait, ben, du coup, quand j'arrivais justement après mes études et que je voulais faire des dessins érotiques mais que j'osais pas, et ben en fait, aujourd'hui, ça m'énerve parce que. On nous a pas appris à être aussi un peu chill comme les mecs, où c'est genre « Ah bah c'est pas grave, c'est pas grave si tu fais pas ci, c'est pas ça », ou alors... on nous a pas appris à juste être aussi un peu égoïste, à faire des choses pour nous et à être moins...
À se soucier plus du regard des autres, quoi.
Ouais, voilà, et d'être plus ouvert et tout ça. Mmh. Et en fait, moi, au bout d'un moment, ça me complexait énormément parce que je pouvais avoir envie de faire certaines choses, mais j'y arrivais pas parce que j'étais bloquée. Je me trouvais naze.
T'avais un biais psychologique.
Ouais, et en fait, je pouvais voir des copines donc orientées, genre et filles, qui étaient plus ouvertes, plus détendues avec la sexualité et tout. Et en fait, moi, je les admirais et je les enviais aussi parce que j'arrivais pas à être si cool, en fait.
Ouais.
Et ça s'est développé qu'au fur et à mesure. Et le dessin m'a beaucoup aidée à m'affirmer. Mais je me souviens qu'une fois, j'avais peut-être une dizaine, 10, 15 ans, vraiment dans ces eaux-là. Même peut-être plus dans les 10, 12 ans. Et j'avais fait un dessin de deux personnes qui étaient en train de se pécho dans un hamac. J'avais dessiné ça quand j'étais donc,
au collège.
Et c'était en vacances, il y avait mes parents, des amis de mes parents et tout. Et j'avais fait ce dessin, sauf que là, du coup, ça fait un peu branché cul, alors que j'ai 12 ans. Et,
En même temps, 12 ans, c'est à cet âge-là que tu commences à te toucher,
oui,
etc.
T'as puberté,
C'est le moment où ça commence à te titiller. Faut arrêter un petit peu de se dire que t'es encore un enfant. C'est pas vrai.
Oui,
à cet âge-là, t'es encore un enfant, mais tu te découvres aussi. Ouais. C'est le moment où tu commences un peu à te masturber. C'est ton corps change, donc tu t'observes dans le miroir, où tu commences à avoir du désir, à avoir...
Et du coup, j'avais fait ce dessin et les enfants à côté de qui j'avais fait ça, je sentais qu'ils trouvaient ça un peu osé, mais que ça passait. Et puis en fait, pour moi, c'était genre, c'est un peu osé, mais bon, voilà, coucher de soleil, couple dans un hamac... Et puis en plus, c'est genre une tête au-dessus de l'autre, un peu en mode missionnaire. Enfin, en plus, tu voyais rien, t'avais le hamac, tu vois.
Ouais.
Et en fait, après, j'avais entendu genre les parents des différentes familles qui étaient là, qui étaient en mode, c'est pas très correct, quoi. Et en fait, du coup, plein de petites choses comme ça m'ont un peu bloqué par la suite. Et après, même dans ma vie personnelle, ça m'a beaucoup, ça m'a trop influencé. Et avec le recul, ça m'énerve. Et du coup, ce que je pourrais dire à la petite Marie, ce serait de plus oser...
De moins faire attention à ce que pensent les autres.
Ouais, et en fait, au bout d'un moment, j'avais réussi dans ma vie perso à être... à plus oser, mais avec cette directive, pas de regret. Parce que pendant tout mon collège, j'osais pas faire des choses et je regrettais énormément... Et à partir peut-être du lycée, un truc comme ça, j'ai plus osé, même si genre mon cœur battait à 1000 à l'heure dès que je voulais faire certaines choses et tout. Et au moins j'avais pas de regrets, même si ça a chié et tout ça, j'avais pas ce que je voulais et tout ça. Et en fait, je me disais au moins,
t'aurais essayé.
J'ai essayé et j'ai tout donné et je peux être contente de moi. Et en fait, j'aurais aimé pouvoir faire ça plus tôt. Et je pense que je me serais plus amusée, genre au collège et tout. Et voilà ce que je dirais à la petite Marie. Et que du coup, je pense que j'aurais peut-être plus aussi réussi à me développer par la suite. Et de ne pas complexer aussi d'avoir certaines préférences, par exemple au niveau graphique. Le fait que j'aime dessiner des choses de manière assez académique.
Ouais. C'est pas toi moins une artiste que les autres parce que tu respectes, comme tu le disais, les proportions, les
dessins, etc. Parce qu'en fait, j'admirais encore une fois les artistes qui arrivaient à avoir un style vraiment, vraiment original. En fait, j'admire aussi beaucoup les personnes qui faisaient de la BD parce qu'elles stylisaient leurs personnages et tout ça. Et je trouvais ça génial, mais moi, j'arrivais pas à trouver un truc original. Et du coup, j'ai l'impression de faire que du copier, parce que j'adorais dessiner à partir de peinture, donc dessiner à partir tout le temps de photos. Et je me disais, mais c'est de la copie, c'est nul, c'est pas original et tout. C'est pour ça qu'avec mon expo Grain de Beauté, j'avais fait des autoportraits, parce qu'au moins, c'était mes photos, c'était mon corps, et donc tout était authentique. Et arrivé là, j'ai commencé à me déculpabiliser d'avoir ce style-là, que c'est pas grave. Tant que t'arrives à avoir... un graphisme qui t'est propre, un message qui oui, t'importe.
Fait, le trait ne fait pas tout non plus. Ça dépend ce que tu mets derrière, ce que tu utilises comme couleur, ce que tu mets derrière en termes de technique, mais ça dépend aussi ce que tu mets derrière en termes d'approche, en fait. C'est pas grave si c'est uniquement, c'est très académique et que c'est très réaliste, en fait.
Ouais. Et du coup, bah voilà, si je peux conclure, ce serait vraiment d'oser plus, d'avoir plus confiance en soi. Je dirais pas forcément de s'entourer de personnes qui peuvent te donner confiance en toi, parce que bah, t'es en train de découvrir, les autres se découvrent aussi, les autres sont aussi sous influence de la société, de la famille et tout. Mais c'est plus d'y croire. Après, bah, j'y ai toujours cru, c'est juste que j'étais toujours un peu déprimée. Enfin, les premières années sur Paris où je faisais du graphisme et tout, tous les trimestres, je faisais des crises d'angoisse parce que ça décollait pas, parce que je faisais pas vraiment ce que je voulais. Donc vraiment, c'est, ben,
oser,
ça va le faire, ça va le faire. Il faut y croire. Trouve un chemin. Débrouille-toi pour avancer, même si tu te chies un peu, même si c'est pas le succès que tu veux. Bah, t'as appris au moins des trucs. T'apprends un truc. Bah, tu vas t'en servir pour la suite et tout. Ça pourra que te servir, quoi. Et finalement, c'est aussi une manière de voir les choses de la vie. Et qu'après, ben, teste plus, enfin, niveau graphisme, dessin, teste des choses et n'aie pas peur d'assumer ce que tu aimes aussi, quoi, et de bien t'orienter là-dessus si c'est vraiment ce que tu veux à fond. Voilà.
Trop bien. Eh ben, je te remercie beaucoup, Marie. J'invite évidemment tous nos auditeurs à te suivre sur Instagram, si tu as, même si tu as beaucoup plus de followers que nous n'avons d'auditeurs. Non, je devrais pas dire ça. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup, Marie. C'était hyper intéressant. Et puis, je te dis à très bientôt.
Merci à vous, les filles.
Bisous.
À bientôt. Bisous.
Merci d'avoir écouté le déclic de Marie. Si cet épisode vous a plu, pensez à nous laisser 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre application de podcast préférée. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, @18h17productions, et n'oubliez pas de suivre également Marie, @MarieCazaïs. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.